Une vie érotique.
Ma vie érotique.
Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Salut Fanny.
Salut Pauline.
Fanny, tu es une femme de 31 ans et avec toi, on va parler notamment de fluide corporel, car tu te revendiques fluide addict. Donc je te propose qu'on commence par là. Pourquoi, selon toi, c'est important de parler de fluide dans la sexualité ?
Bah parce que selon moi, les fluides font partie intégrante de la sexualité et puis sans fluide, je pense qu'il n'y a pas de sexualité, quoi. Tout ce qui est sexuel est aussi vachement sécrété, que ce soit les fluides sexuels, les fluides corporels, la transpiration, les fluides féminins, masculins. On a des fluides qui sont en commun entre tous les humains et puis d'autres qui ne le sont pas. Et je trouve ça intéressant de pouvoir les mélanger pour être dans les fluides, quoi.
Qu'est-ce que tu ranges dans la catégorie fluide ?
Je range la mouille, l'éjaculat, les règles, la transpiration, le sperme, tout ce qui peut lubrifier aussi naturellement, enfin voilà, les larmes aussi, pourquoi pas.
Pourquoi je te pose toutes ces questions ? C'est parce que ton propre parcours sexuel est intimement lié à la question des fluides, et en particulier des règles, on y reviendra. Et je te propose donc maintenant qu'on entame notre voyage dans ta vie sexuelle, puisque c'est l'objet de ce podcast. Est-ce que tu es d'accord ?
Oui, je suis d'accord.
Très bien. Première question, est-ce que d'abord tu te souviens de tes premiers émois sensuels, tes premières sensations érotiques ? À quoi ça ressemblait ?
Oui, je m'en souviens vaguement. C'est plus des flashs comme ça. Je pense que quand j'étais assez jeune, vers 6-7 ans, au début de l'école primaire, j'ai eu des premiers émois sexuels ou en tout cas des coups de chaud, quoi. J'identifierais plus ça comme ça. Et je sais que, je pense comme pas mal de monde, j'ai dérapé avec des copines en s'invitant à dormir ou dans des moments comme ça. Et donc, je me souviens pas précisément des scènes, mais je sais que ça... On a dérapé à des moments, quoi.
Ça veut dire quoi, déraper ? Il y avait des baisers ?
Ouais, des baisers sur les parties intimes, des bisous sur la bouche, des choses comme ça, quoi. Et dans mon souvenir, c'est des souvenirs qui sont assez érotiques, en fait. Qui sont de l'ordre de l'expérimentation, mais érotiques, quoi. Où il y a une espèce de conscience qui se forme à ce moment-là et qui va vers un érotisme certain, quoi.
De la sexualité.
Ouais, c'est ça. C'est ça, qui se matérialise.
Est-ce qu'à l'époque, tu te masturbais ?
Je pense oui. Je pense que je me suis masturbée petite comme ça jusqu'à à peu près ouais mes règles, ou après ça m'a un peu
justement, puisque tu en parles, tu vers l'âge de 10-11 ans, il t'est arrivé un truc assez incroyable donc au moment où tu as eu tes règles, dans un moment assez particulier. Est-ce que tu peux nous raconter?
Ouais, j'ai eu mes règles donc ouais, c'est ça, vers 10-11 ans, c'était au mois d'août, j'étais en vacances chez mon père et au moment de la sieste je sais pas, je pars dans un délire un peu érotique et puis je me touche. C'est, enfin, je sais pas appeler ça vraiment la masturbation, parce que c'est pas vraiment conscient. Mais en tout cas, je me touche et puis je me réveille un peu en sursaut, un peu genre coup de chaud, quoi. Un peu transpirante et tout ça. Et là, je vais aux toilettes et puis je constate qu'il y a du sang dans ma culotte. Et du coup, en fait, j'ai largement identifié règles et sexe, en fait. Pendant plusieurs années derrière, en me disant que c'est ça qui avait déclenché, que c'était le fait de masturber qui avait déclenché mes règles. Et comme mes règles ont été problématiques et me font souffrir, je me suis pas laissée aller, en fait, dans ma sexualité. Je pense qu'il y a un mécanisme inconscient qui s'est mis en place à ce moment-là, ouais.
Pour revenir à cet épisode, du coup, enfin, comment tu l'as vécu sur le moment? T'as fait cette association? Comment tu l'as faite, en fait, dans ta tête?
J'ai vraiment cru que c'était ça qui avait déclenché ça. Donc, c'est-à-dire que pas tout de suite, je me suis dit, tiens, j'ai mes règles, parce que j'étais assez jeune et qu'aucune de mes amies les avait à ce moment-là. Donc, j'étais la première. J'ai grandi dans une famille qui n'a pas tellement de complexes ni de tabous, mais pour autant, je me souviens pas qu'on m'ait briefé sur les règles. Je venais de terminer ma sixième. On nous parlait pas de ça, quoi, à l'école primaire non plus. Donc, je me suis retrouvée un peu genre, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis, peut-être que j'en avais entendu parler ou j'avais lu des choses dans des magazines, donc ça m'est revenu et je pense que je me suis dit ça y est, c'est parti pour 40 ans de galère. Enfin, je me suis peut-être pas dit ça comme ça, mais je me suis dit ça y est, si c'est là, c'est que ça va revenir et que ça va être compliqué, quoi.
Mais le fait que ça t'arrive dans un moment érotique, ça, comment tu l'as vécu? Enfin, qu'est-ce que ça t'a provoqué?
Bah, je l'ai assez mal vécu, en fait. C'est la douleur était associée à la sexualité, en fait. Et au plaisir sexuel.
Parce que du coup, tu avais mal aussi ?
Ouais, j'ai eu très rapidement mal de mes règles. Voilà, le phénomène des menstruations qui arrive mensuellement et qui du coup dure entre 3 et 7 jours et c'est vrai que j'ai eu de grosses douleurs de règles assez vite et donc du coup vers l'âge de 13 ans on m'a prescrit une pilule contraceptive hormonale pour éviter d'avoir trop de douleurs, ce qui a pas forcément hyper bien marché parce que j'en ai toujours souffert donc je me souviens pas avoir eu des années de genre à la cool avec mes règles. Enfin, ça, toute l'adolescence, ça a été un problème, en fait.
Tu dirais que ça a marqué ton adolescence, ton rapport au corps, par exemple, dans ces zones-là d'âge ?
Ouais, ça a marqué mon adolescence, mais ça a marqué aussi le début de ma vie, en fait. C'est-à-dire que t'es insouciante jusqu'au jour où, en fait, tous les mois, il faut que tu te rendes responsable de toi-même, apporter des serviettes ou des tampons et que tu dois pas oublier parce que si t'oublies et que tu tâches ton jean, ben, ça va mal se passer pour toi au bahut et forcément... C'est des choses qui marquent, quoi.
Pour toi, c'est l'entrée dans la vie adulte, c'est la fin de l'insouciance.
Ouais, exactement. Et pour autant, je pense qu'il y a un truc que pas mal d'entre nous ont vécu au moment des premières règles, c'est qu'on nous dit « ça y est, t'es une femme ». Et moi, je l'ai entendu, ça, mais j'étais pas du tout dedans, quoi. Enfin, à quel moment j'étais une femme à 10 ans et demi quand j'avais mes règles, j'étais juste une enfant, en fait. J'ai continué à être une gosse pendant encore plusieurs années derrière. Même encore aujourd'hui, je me sens pas femme au sens comme c'est écrit la définition du Larousse, quoi. Tu vois, c'est. Enfin, je veux dire dans la biologie, oui. Enfin, j'ai tous les attributs.
Et puis, c'est associer la notion de féminité à la douleur.
C'est ça. Et puis, avec cette idée des règles et de devenir femme, il y a aussi tout ce délire de maternité et cette pression qui se met en place assez directement où on te dit, tu as tes règles, donc tu es une femme, donc potentiellement tu peux avoir des enfants, donc fais attention à toi. Ne va pas traîner n'importe où. Fais attention avec qui tu couches, avec qui tu as des rapports, etc. Alors que bon, moi, en tout cas, dans mon cas personnel, à 10 ans et demi, je pensais pas coucher avec qui que ce soit.
Donc en fait, l'arrivée de tes règles, pour toi, elle a été associée à un premier discours sur la sexualité que t'étais pas forcément prête à entendre.
Exactement.
Donc en fait, donc ça, c'est ta belle-mère, je crois, qui t'en a parlé. Qu'est-ce qu'on t'a dit, en fait ?
Eh ben, ma belle-mère de l'époque était porteuse du VIH. Elle avait été embarquée dans les histoires de transfusion sanguine dans les années 80. Et en fait, à l'époque, je savais pas. En fait, je savais pas qu'elle avait le sida. Mais je me souviens, je l'ai su après, et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Mais c'est que quand donc j'ai eu mes règles, c'est elle qui m'a pris en charge. Elle m'a emmenée dans sa Twingo verte et elle m'a emmenée chez elle, parce qu'elle habitait pas avec mon père. Et pendant tout le trajet, elle m'a briefé en me disant « Tu sais, maintenant, il faut vraiment que tu fasses attention parce que bah, c'est elle qui m'a fait le discours, en fait, sur la féminité, sur le fait de pouvoir avoir des enfants, sur... Et elle a beaucoup insisté, évidemment, sur se protéger, faire très attention. Et d'ailleurs, en arrivant chez elle, elle m'a montré des serviettes, tampons et des capotes.
Quand tu avais 10-11 ans.
Voilà. Donc j'étais genre « Ok, ça a pas l'air cool du tout, votre histoire. Je veux pas en être. »
C'est vrai que souvent, les premiers discours sur la sexualité qu'on peut avoir hors de la pornographie, ce sont souvent des discours liés au danger de la grossesse et des maladies. Est-ce que à cette époque de ta vie, t'as eu, enfin, du coup, là, c'était jeune, mais plus tard, est-ce que t'as eu des discours un peu plus positifs, mais à l'adolescence? Est-ce que à l'école, par exemple, tu as eu un cours d'éducation sexuelle où on t'a parlé d'autres choses que seulement se protéger, attention, ne pas tomber enceinte? Ou est-ce que c'était un non-discours, un vide ?
Ouais, il y a vraiment eu un vide à ce niveau-là. Moi, la notion de plaisir, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai mis en place assez tardivement, je pense. Et en tout cas, pendant tout le lycée, c'était collège et lycée, du coup, parce que j'étais réglée déjà en cinquième. Je me souviens pas qu'on m'ait dit ça peut être cool, tu peux prendre du plaisir. Je me souviens pas qu'on parlait de masturbation. Je me souviens pas qu'on parlait de bienveillance envers soi-même ou envers les autres. Des choses que maintenant, Enfin, évidemment, à mon âge, et puis c'est des choses que je promeux aussi par ailleurs, où j'en parle comme ça, en tout cas aujourd'hui. Mais à l'époque, non, je me souviens qu'il y avait un dispositif dans mon collège qui s'appelait Giga la vie. Et en gros, c'était une fois tous les deux ans, il y avait dans le gymnase, en fait, des associations qui venaient, et puis qui te montraient comment viser de la prévention, autant routière, comment bien te laver les dents que comment mettre une capote, tu vois. Et du coup, c'était des petits ateliers comme ça, puis on se déplaçait avec mes copines et puis on allait voir. Mais même dans ce cadre-là, je me souviens pas qu'on osait parler de ça comme ça.
Et comment c'était ton adolescence entre les douleurs de règles, les copines? Comment c'était cette période de ta vie?
C'était assez chiant, j'étais hyper complexée. Je respirais pas la joie de vivre, honnêtement, mais je me cachais vachement, en fait. Bon, en fait, je suis assez grande, j'ai des formes, enfin, tout ça. Et c'est vrai que ça a été problématique. Je fais du 100E. à l'époque, déjà en cinquième, tu sais, quand t'es réglée, etc., ça vient vite. Après, ça pousse d'un coup. J'étais genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de mon corps? Enfin, je fais 1m80. Tu vois, enfin, j'étais hyper complexée, en fait. Donc, je me suis cachée toute mon adolescence au collège, au lycée. J'ai séché les cours de sport. J'avais des, comme des dérogations, là, du médecin. Pendant 2-3 ans, j'ai pas fait de sport. Je voulais pas aller à la piscine. Enfin, c'était un peu l'enfer, quoi. Non, j'ai très mal vécu cette période-là. Pour rien au monde, je la revivrais, quoi.
Et tu sentais le regard des autres sur toi? Ou tu l'imaginais plus que tu le sentais vraiment?
Je sais pas, du coup, en fait, j'ai développé une espèce de caractère assez dur. J'étais pas la plus sympa de mes copines, quoi. Donc, forcément, j'avais une image un peu qui était préservée de elle, faut pas la faire chier. Et puis, c'était un peu ça. Et puis, du coup, je pense qu'il y a un complexe qui s'est développé par rapport à mes autres copines qui étaient toutes mignonnes, qui avaient toutes des boyfriends ou, tu vois, des petites histoires. Et puis, moi, ça arrivait vraiment sur le tard, quoi.
Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que tu as commencé à voir les injonctions qui peuvent exister autour de la sexualité des femmes ou de la sexualité en général?
Ouais. Bah, en fait, j'avais la réputation d'être lesbienne. C'était genre, c'est dans le cadre genre d'une insulte, être lesbienne. Et j'étais amoureuse de filles. Et du coup, je me suis interdit ça, parce que je voulais pas qu'on pense que c'était vraiment ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je réalise que quand t'es une fille ou une femme, en fait, il faut être avec des mecs. Et si c'est pas ça, bah en fait, on t'insulte de lesbienne ou de je sais pas quoi, et puis on se fout de ta gueule, quoi. Mais ouais, je me souviens d'un de mes meilleurs potes, qui est toujours un de mes très bons potes aujourd'hui, qui m'avait tenu... Qui avait voulu me parler de ça, mais en mode assez brutal, en fait, pas du tout pour me dire « mais t'inquiète pas, tu peux m'en parler ». Au contraire, c'était pour se foutre de moi. On était en vacances ensemble, et puis il m'avait dit « non mais tu sais, tout le monde le sait de toute façon ». Enfin, il m'avait trop agressé avec ça, quoi. Et du coup, ben, injonction, quoi. Injonction à l'hétérosexualité, ça c'est un truc qui me poursuit encore aujourd'hui, mais...
C'est quand même aussi à ce moment-là que tu as vécu tes premières amours avec des filles, ou est-ce que c'était des amours contraintes? Enfin, contrainte secrète, plutôt.
Ouais, c'était plus secret, en fait. Il y a eu une fille au collège qui j'ai jamais rien dit. Mais par contre, mes copines étaient au courant parce que dernièrement, une de mes meilleures amies a retrouvé son journal intime et elle parlait de ça dedans. Donc, comme quoi
c'est... Elles s'en rendaient compte.
Mais en fait, on en parlait. Avec mes meilleures copines, on en parlait. Donc, c'était pas un sujet de honte ou même de débat. Mais c'était juste par rapport à tous les autres, en fait. Je pense que j'étais dans ma forteresse avec mes copines, mais dès que ça sortait de là, c'était l'enfer, quoi. Et après, il y a eu une autre fille au lycée. Et puis finalement, à la fin du lycée, j'ai fini par sortir avec un garçon avec qui j'ai couché et avec qui je suis restée une année, un truc comme ça.
C'est aussi avec tes copines que tu parlais quand même de sexualité, je crois. Comment ça se passait, ça? Est-ce que c'était un espace de discussion ou comment ça se matérialisait? Comment tu parlais de sexe avec elles?
On avait régulièrement des rendez-vous, on faisait on s'invitait à dormir les unes les autres, machin. On était un groupe de 6 copines. Et en fait, je pense qu'on parlait de ça de façon assez naturelle, où il y en avait une qui avait rencontré un garçon, etc. Elles étaient toutes hétéros, elles sont toutes hétéros aujourd'hui. Et du coup, moi, je me reconnaissais pas trop dans leurs expériences ou dans leurs envies, en fait. Donc, moi, je restais carrément en retrait, en fait, dans ces moments-là. Mais j'étais même pas curieuse de savoir. J'étais même pas spécialement curieuse, en fait. C'était pas non plus désagréable. J'étais toujours contente pour elle s'il y avait des histoires, etc. Mais j'étais pas forcément très impliquée là-dedans, en fait. Je pense que jusqu'à ce que je rencontre mon premier mec à 17 ans et on a couché ensemble, j'avais 18. En fait, c'est quelque chose que je pensais pas être pour moi, quoi.
Tu veux dire la sexualité hétérosexuelle?
Le sexe
tout court.
Ouais, je me l'interdisais. J'avais trop peur d'être cataloguée ou que je me sente obligée de faire des choses que j'avais pas envie de faire. Ben, je pense qu'on attendait de moi, comme toute jeune fille de cet âge-là, de sortir avec des garçons, etc. Et en fait, j'en avais pas envie. Donc, j'ai complètement passé le truc du genre, c'est pas pour moi.
Et il y avait personne pour te dire que tu pouvais avoir une sexualité en dehors de la sexualité hétérosexuelle.
Exactement.
Et c'est quand même avec tes copines, je crois, que tu es allée emprunter des vidéos porno pour la première fois. Tu peux nous raconter?
Ça, donc, je pense qu'on était en cinquième et on était allé, donc, c'est toujours le fameux groupe de 6. À la sortie du collège, on était allé au vidéoclub de notre ville, enfin, juste à côté du collège, quoi. Et on s'était, genre, habillés, maquillés, un peu comme des dames. En fait, on avait vraiment l'air de, enfin, on était vraiment hyper vulgaires et tout ça, quoi. Mais c'était assez drôle et on avait fait une fausse lettre soi-disant de la part de la mère de l'une d'entre nous, pour expliquer j'autorise ma fille, machine, à emprunter une vidéo pornographique. Et je me souviens qu'on avait fait la photocopie, enfin, discrètement, de la carte d'identité de la mère de ma pote. Enfin, tu vois, on était allé loin, quoi. Et donc, on s'était pointé là, on avait genre, on avait quoi, 13 ans. Et le mec nous a regardé en mode, mais vous êtes folle. Et finalement, l'une d'entre nous qui était pas là à ce moment-là a appelé d'une cabine téléphonique pour dire oui, non mais écoutez, je comprends pas, mes filles sont venues pour louer un film porno, vous les avez pas laissées, pourtant j'ai fait une lettre spécialement pour ça, moi je les autorise, etc. Puis on était reparti avec le porno, quoi. Je pense qu'on l'avait vraiment bien saoulé, quoi. Je pense qu'il en pouvait plus, il s'est dit bon vas-y, tu sais quoi, hop là.
Et tu te souviens du contenu de cette vidéo?
Ouais, je me souviens que l'actrice s'appelait Tracy Joe et que plus elle mangeait des cookies, plus ses seins grossissaient. C'est ce truc dont je me souviens. Ah oui, si, il y avait aussi une scène où elle faisait tomber l'aspirateur dans les escaliers, puis elle se faisait prendre par le mec. Enfin, c'était hyper cliché, c'était...
Et ça te parlait, le truc de plus tu manges des cookies, plus t'as les seins qui grossissent?
Ah mais ça, c'est toujours une running joke avec mes copines, quoi. Cette histoire de cookies, ça nous fait toujours marrer, quoi.
On peut en venir justement à ce premier petit copain. Donc, qui était-il? Et surtout, ce qui m'intéresse un peu plus, je dois l'admettre, c'est comment c'était votre première fois?
Alors, en fait, il avait un an ou deux ans de plus que moi. C'était un peu le beau gosse du lycée, etc. Et ce mec-là s'est intéressé à moi. Alors, pourquoi j'en savais rien? Mais d'ailleurs, je sais toujours pas, hein, parce qu'on n'était pas vraiment le même genre de personne. Donc, un jour, à une soirée, il m'a dit, écoute, je t'adore, j'aimerais bien qu'on soit ensemble, etc. Donc, l'histoire a commencé comme ça, enfin vraiment de façon assez finalement spontanée et puis voilà quoi. Et quelques mois plus tard, on a couché ensemble pour la première fois, il était vierge lui aussi. Et donc c'était chez moi, chez ma mère, et c'était vraiment, c'était hyper maladroit quoi. Enfin je me souviens que c'était, on avait bu beaucoup d'alcool avant, on s'était fait genre un apéro en face-to-face. Et puis après avoir fini la bouteille, on s'est dit ok vas-y on y va et... Et on avait baisé, mais c'était pas vraiment c'était pas de la bonne baisse, quoi. C'était pas très intéressant. Et en fait, on est restés ensemble pendant genre un an derrière, et je me souviens que j'aimais pas, en fait, baiser avec lui. Il y a plein de trucs que je voulais pas faire, et notamment, je voulais pas le sucer. Et c'est un truc qui m'a poursuivi, ça, derrière.
Mais lui était demandeur?
Ouais. Il était demandeur, et j'étais genre, en fait, non, j'ai pas envie, quoi. Enfin, j'ai pas envie, et puis, puis il y avait cette histoire de sodomie aussi, il tenait absolument à la sodomie, donc on l'a fait une fois, et honnêtement, c'était tellement mal fait, et tellement douloureux que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on fasse ça, quoi. Enfin, donc ouais, il était assez insistant, en fait, sur tous ces trucs-là, et on a fini par se quitter au bout d'un an, et puis après, il m'a fait une petite réputation derrière, quoi. Que de toute façon, j'étais pas un bon coup, ou que je suçais pas, ou des trucs comme ça, quoi, tu vois.
Ah, donc là aussi, un beau... Une belle manifestation du sexisme ou de la répression, on va dire, de la sexualité des femmes.
Ouais, je vois exactement ça comme ça. Et en fait, ça m'a un peu traumatisée parce que déjà qu'à la base, j'étais pas chaude pour sortir avec des mecs. Et après ça, en fait, il se trouve que j'ai rencontré un mec avec qui j'ai eu une relation platonique pendant 2 années. Mais bref, moi, je voulais pas ça, mais c'était un mec dont j'étais éperdument amoureuse. Et puis finalement, je m'étais tellement dit que le sexe était pas pour moi et que en plus, ça, le sexe avec les mecs, c'était vraiment pas pour moi. Que finalement, c'est que, l'histoire d'après s'est construite comme ça avec cet autre mec. Et c'était, c'est la pire histoire de ma vie. Ça, je regrette tellement de m'être laissé embarquer dans un truc pareil. Mon ego en a pris un coup, mais.
Avec le premier garçon, tu veux dire?
Avec le premier et le deuxième après derrière qui me désirait pas du tout, qui voulait pas, en fait. Qui voulait pas.
Et donc, toi, à cette époque-là, t'en avais envie?
Ouais, j'avais l'impression d'en avoir envie.
Et t'avais l'impression d'être rejetée?
Ouais, complètement.
Donc, t'avais été rejetée non seulement par le premier qui t'avait jugé sur ta façon de réagir, et tu t'es sentie rejetée par quelqu'un qui ne te désirait pas ou qui ne désirait peut-être personne, d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Et c'est le moment où j'ai arrêté la pilule, à 21 ans, en fait, quand j'ai rencontré ce deuxième mec. Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir les hormones on fire. En fait, je me suis rendu compte que la pilule m'avait quand même pas mal endormi la libido. Donc, je pense que tout ça est un peu lié. Et je me suis réveillée à 21 ans en me disant, ah non, mais en fait, j'ai du désir. Et en fait, j'ai envie de baiser.
Comment ça s'est manifesté, ça? Un matin, comme ça? La gaule du matin?
Ouais, c'est un peu ça, genre le syndrome gaule du matin. Et là, j'ai commencé à me masturber tous les jours, plusieurs fois par jour, enfin, pendant des années après. Là, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais genre, c'est vraiment, genre, quasi du jour au lendemain, quoi, d'une seconde à l'autre.
Et donc, pour toi, c'est très probablement lié à l'absence d'hormones, enfin, que tu prenais plus, du coup.
Ouais, enfin, la régulation des hormones avec la pilule. Ou peut-être que ça m'a fait un déclic aussi. Je sais pas si c'est vraiment directement lié. Oui, la pilule peut fortement faire baisser la libido, c'est pas un secret, mais après... Comme j'avais jamais vraiment découvert ma sexualité. Enfin, si, c'est ça qui est marrant, c'est que petite, je me touchais, etc. J'ai des souvenirs comme ça érotiques. Après, j'ai eu mes règles. On m'a quasiment immédiatement mis sous pilule parce que j'en souffrais trop. Il s'est rien passé. En tout cas, j'avais pas de désir ou même ça me dégoûtait. Et après, à 21 ans, j'ai eu un espèce de switch où, où là, là, c'était, enfin, porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Là, j'avais envie de baiser avec tout le monde, quoi.
Et est-ce que ça t'a soulagé, ça t'a fait du bien de te rendre compte de ça?
Ouais. Bah, il y a un truc où, genre, c'est vrai que je connaissais pas le terme d'asexuel à l'époque. J'aurais peut-être bien voulu qu'on m'en parle. Parce que le peu de relations sexuelles que j'avais eues à l'adolescence, à 18 ans, etc., 19 ans, 20 ans, je le faisais parce qu'il fallait le faire et que je me laissais pas le choix. Parce que c'est vrai que quand t'arrives à la fin du lycée et que t'es toujours pas couché, en fait, t'es vraiment hyper mal vu et puis tout le monde le sait, enfin, tu vois. Donc je m'étais un peu forcée, même si j'aimais bien ce garçon au début et tout ça. Et après, ouais, c'est vrai que quand j'ai arrêté la pilule, j'ai l'impression que ma vie avait vraiment commencé, quoi. À partir de 21 ans, 22 ans.
Justement, c'est à quel moment que tu as commencé à te sentir épanouie sexuellement? Parce que là, tu avais ce sentiment-là avec toi-même. Enfin, quelque part, ta bouffée de désir, il n'y a pas eu de déclencheur extérieur, enfin, je crois. Est-ce que après, dans la pratique à deux, tu t'es épanouie sexuellement après ça?
Ouais, bah en fait, c'est venu un petit peu après, puisque je pense que dans un premier temps, j'avais besoin de me refocus un peu sur moi-même. Donc j'avais vachement d'envie, etc., mais j'avais pas forcément de multiples partenaires, quoi. Et en fait, il y a un moment où j'ai repris confiance en moi. Enfin, je pense que c'est aussi vraiment intimement lié, c'est que je pouvais avoir envie, mais j'avais pas confiance en moi, puis j'ai pas forcément envie qu'on me regarde ou qu'on me drague. Et puis c'est pareil, j'ai toujours eu du mal avec cette façon qu'on a de faire dans la vie en général, dans les relations hétéro, quoi. En fait, ça me paraît trop brutal et juste pas intéressant, quoi. En fait, c'est pas comme ça que j'avais envie de vivre les choses, donc j'ai inversé un peu la tendance et je suis devenue une espèce de meuf qui lit de tout, qui décide avec qui elle va coucher, etc. Donc ça, c'est venu quelques années après, au moment où je me suis un peu empowerée, quoi, tu vois, je me suis un peu reprise en main et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas la vie que je veux avoir. Moi, j'ai envie d'avoir des partenaires, j'ai envie de découvrir le sexe, etc. Et donc ça, c'est venu, ouais, un tout petit peu plus tard, disons. J'ai commencé mes études à 24 ans et je suis partie au Canada un petit peu après, pendant 2 années. Et c'est vrai que c'était une année qui était très riche en remise en question personnelle, identitaire, politique. Et c'est vrai que je me suis dit, à un moment, j'en ai marre, en fait. Je pense que je suis un humain qui a envie de baiser. Et...
Est-ce que tu as mis tout ça en pratique, du coup, là-bas?
Ouais, j'ai commencé là-bas, ou quand je revenais, etc. Enfin, j'ai commencé, en fait, à avoir beaucoup de partenaires, quoi.
Hommes ou femmes?
Plus hommes. Plus hommes, et puis femmes aussi un peu en rentrant à Paris. Là, je commençais à me sentir vraiment bien. Quand j'étais au Canada, j'ai rencontré un mec sur une application Kinky qui m'avait... bref, avec qui c'était hyper épanouissant et le mec était vraiment sans complexe. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais un mec avec qui c'était vraiment pas un problème et surtout qui était vachement à l'écoute. Et donc, ce mec m'a fait éjaculer pour la première fois. Évidemment, je savais ce que c'était, etc. Enfin, j'ai toujours beaucoup consommé de porno, finalement, avec même à l'âge adulte, etc. Ou en tout cas dans ma vingtaine. Et en fait, sur le moment, j'ai pas réalisé ce qui se passait. Et c'est quelques secondes après, j'ai repris mes esprits, j'ai vu que genre c'était genre trempé de chez trempé. J'ai fait oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, il m'a expliqué, il était hyper gentil. Et du coup, voilà, c'était devenu un trip avec lui.
Et ça t'a plu de le découvrir? Parce qu'il y a certaines femmes qui, en le découvrant, peuvent concevoir une forme de honte, mais bêtement parce qu'elles savent pas ce que c'est ou parce qu'on leur a dit que c'était pas bien ou je ne sais quoi. Est-ce que toi, tu en étais heureuse, fière?
J'étais hyper fière, en fait. Déjà, je me sentais pas capable de faire ça. Enfin, j'y pensais pas vraiment. Enfin, si, j'y pensais, mais je me sentais pas trop capable. Et quand j'ai réussi à le faire, ou à le faire avec James, s'il s'appelait, c'était, enfin, pour moi, c'est un fluide magique, l'éjaculat. Donc, j'étais en mode, oh là là, là, c'est vraiment le Saint Graal, un peu du fluide, genre d'arriver à faire ça. Et puis après, avec le temps, j'ai réussi à m'approprier vraiment ce fluide et puis à le maîtriser. Donc, enfin, c'est devenu génial, quoi. Et puis c'est hyper orgasmique aussi, hein. Enfin, éjaculation ne rime pas forcément avec orgasme, mais quand on arrive à avoir les deux en même temps, c'est vraiment explosif, quoi. Donc, en fait, je me suis dit à ce moment-là que j'avais atteint un certain degré d'intimité avec moi-même aussi, pour arriver à me lâcher, parce que c'est vachement lié à ça aussi.
Ça a été un indicateur d'un bien-être.
Ouais, exactement.
Et c'est aussi un peu à cette époque-là que je reviens à la question des règles, que tu as découvert la cup, c'est ça?
Ouais.
Et ça t'a aidé, ça?
Ouais.
On peut peut-être rappeler ce que c'est, donc la coupe menstruelle. Enfin, maintenant, il y en a en France aussi. C'est une coupe en plastique, c'est ça?
En silicone, pardon.
Qui recueille les fluides, enfin, qui recueille le sang menstruel.
Ouais, c'est une petite cloche en silicone qu'on insère dans le vagin, qui recueille le sang des menstruations et qu'il faut vider toutes les 6-8 heures avant de la réinsérer. Et c'est un objet qui est très pratique parce que Bah parce qu'en fait, tu l'achètes une fois et tu le gardes pendant minimum 5 années. Et puis après, bah, c'est écolo parce que ça produit plus de déchets. Et au-delà de ça, c'est moins nocif pour la santé parce que le désavantage du tampon, c'est que ça absorbe les règles et les restes des sécrétions qui ont une utilité dans le vagin. Et du coup, ça devient problématique quand on peut avoir beaucoup de problèmes de sécheresse vaginale quand on porte des tampons trop, etc. Tout ça pour dire que c'est vrai que c'était des questions que je m'étais jamais posées. Et les règles, en fait, il y a tellement d'enjeux autour des règles. Déjà qui sont intimes, personnelles, du parcours qu'on a avec nos règles, le fait qu'on n'en parle vraiment jamais, le fait que quand tu vas chez le médecin et que tu dis que t'as mal au ventre à cause de ta règle, on te fournit en doliprane et puis c'est à peu près tout, on cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière ça, s'il y a quelque chose. Et au-delà de ça, c'est vraiment une sécrétion qui fait partie de nous, qu'on voit très souvent, enfin qu'on pourrait voir très souvent, mais qu'on ne voit pas parce que on emballe ça dans des trucs en plastique, des tampons, hop, on le retire, on voit pas ce qui se passe, etc. Et c'est vrai qu'avec la cup, bah, on a un rapport qui est beaucoup plus frontal et organique avec son sang des menstruations, quoi. Et du coup, c'est drôle parce que moi, ça m'a fait un choc de voir la couleur que ça avait, la texture que ça avait, les caillots de sang, de voir que il y avait aussi parfois d'autres fluides qui se mettaient dedans, que de voir le sang des règles sur la faïence des toilettes ou dans la douche, quoi. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça hyper intense, en fait, qu'on nous ait caché ça aussi, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'a fait un déclic où je me suis dit, mais en fait, enfin, essaie d'accepter toutes les choses qui font partie de toi, et ça en fait partie, tu vois. Les règles, c'est problématique, mais essaie que ce soit plus un problème, en fait. Essaie de vivre avec, que ça te coûte pas 10 balles par mois, mais voilà, enfin, plein de choses comme ça. Et comme bah ça sort du vagin, il y a un moment où tu te dis ça va, en fait. Je trouve que la cup, ça permet aussi de s'appréhender soi-même et de se découvrir, quoi, je trouve. Tu vois, c'est quelque chose qu'on enfonce vraiment, qu'on retire, on sent vraiment l'intérieur du vagin, l'effet ventouse ou non, etc. On y met les doigts, enfin, on a du sang sur les doigts, sur les mains, enfin, je veux dire, c'est vraiment frontal, quoi. Et du coup, moi, ça m'a fait du bien dans mon rapport à ma chatte, quoi, en fait. Je pense que ça m'a vraiment aidé à voir plus loin que juste avoir des rapports sexuels pour avoir des rapports sexuels. Et les règles, ça fait partie du sexe et ça fait partie de la sexualité. Parfois, on a envie de baiser, on a nos règles, et puis c'est comme ça, en fait. C'est dommage de se restreindre parce que certains considèrent, ou certaines aussi, que c'est crade ou qu'on ne devrait pas, ou que, enfin...
Donc c'était le moment de réappropriation de tes fluides au sens large.
Exactement, ouais. C'est tout arrivé en même temps, en fait.
D'accord. Et ça a été libérateur, plutôt.
Complètement libérateur, oui.
Et donc, ensuite, tu es retournée à Paris. Tu as bossé dans un love store, un sex shop, comment on peut appeler ça? Un love store?
Ouais, un love store, c'est la différence entre un love store et un sex shop, c'est qu'un love store, il n'y a pas de pornographie. Mais t'as des sextoys, tout un tas de trucs après, très cool.
Comment c'était là-bas, de travailler là-bas?
Eh ben, j'ai commencé à bosser là-bas. Ben, en fait, j'étais dans cette dynamique, je pensais beaucoup aussi à mon féminisme, à la façon dont je voulais me construire, à tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, il me faut ça, en fait. J'ai envie de découvrir ce que c'est. Et pour moi, ça va avec... Enfin, disons que j'ai un féminisme assez libéral, pro-sexe et tout ça. Donc, je réfléchissais tellement beaucoup à ça. Puis à force d'être sur des applications, machin, de rencontrer des gens, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux être. Et c'est ça qui me porte vraiment vers quelque chose d'épanouissant. Du coup, j'ai commencé à bosser là-bas. Et c'était une expérience incroyable parce que déjà, je me retrouve avec des valises de sextoy aujourd'hui parce qu'on te fait plein de cadeaux. Et ça te permet d'expérimenter des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Alors après, il y a des gens qui s'intéressent à ça de fait, bien sûr, hein, mais moi je m'y intéressais pas trop. J'avais déjà essayé des gels excitants ou des choses comme ça, mais jamais des sextoys.
Donc là, t'as plongé dans un monde fait de plein de choses, de formes, de couleurs. Est-ce que t'as des découvertes particulières qui t'ont plu?
Plusieurs choses, ouais. J'ai testé tout un tas de vibro, de sextoys internes, des sextoys anneaux, des trucs avec des goûts, des machins, etc. Mais après, il y a des choses, ouais, auxquelles j'avais pas pensé, que je pensais pas possible. Il existe des sextoys en verre. Moi, c'est mes sextoys préférés. Donc j'ai découvert ça et ça m'a vraiment ouvert des chakras sexuels, quoi. C'est un matériau qui est très lourd, qui prend vite la température du corps, qui est très doux et très lisse. Et ça m'a genre, c'est vraiment mon sextoy préféré, quoi.
Et donc ça, t'as découvert ça dans ce love store?
Ouais, exactement. C'est un sextoy qui coûte que dalle. En plus, il coûte 30 balles, mais c'est... Il paraît pas comme ça, mais c'est... Et ça, tu vois, pour le coup, dans la pratique des sextoys, on connaît les vibros, les rabbits, double branche, branche unique, spécial point G, etc. Et les sextoys en verre, on en parle assez peu. Mais c'est génial, quoi.
Et dans les gens que tu croisais là-bas, ça t'a nourri humainement de rencontrer des gens qui s'intéressaient à leur vie érotique et qui essayaient de la cultiver ?
Oui, alors en fait, dans ce genre de magasin, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des gens qui ont des problèmes avec leur sexualité qui viennent te voir. D'accord. C'est plutôt des gens qui sont en couple depuis 20 ans mais qui n'arrivent plus à avoir de rapport sexuel, ou des gens qui se sont jamais masturbés et qui complexent dessus et qui voudraient trouver quelque chose pour avoir un orgasme seul. En fait, il y a tout genre de typologie client, tout genre de personnes aussi, d'orientation sexuelle, de pratique, c'est ça qui est intéressant. Et là, pour le coup, là où je bossais, on avait de tout pour tout le monde, donc c'était assez chouette. Mais c'est vrai que, enfin, parfois, je me suis retrouvée face à des histoires où j'étais genre, oh là là, mais en fait, c'est beaucoup de psychologie, quoi. Il y a des gens, c'est des clients qui revenaient régulièrement, ils étaient en thérapie avec nous, quoi. On essayait d'avancer ensemble, enfin, et parfois, ils venaient, ils achetaient rien, quoi. On passait une heure et demie ensemble et voilà, quoi.
Et quel sujet revenait beaucoup, par exemple ?
Des meufs frustrées, beaucoup. Des femmes aussi qui venaient d'avoir des enfants, qui arrivaient quelque part à récupérer une sexualité parce qu'il y a un manque de suivi par la part des gynécos, des kinés sur le postpartum, la rééducation du périnée, tout ça, la préparation à l'accouchement qui est très très mal faite et qui, du coup, épisiotomie, etc. Enfin, ça arrive quand même assez fréquemment. Et qui, du coup, étaient dans un délire, je veux avoir des enfants, c'est merveilleux, puis qui, en fait, se retrouvent en galère totale derrière, à pas savoir. Les boules de geisha, c'est quelque chose qu'on vendait, genre, je pense que c'était le top produit à la boutique. On en vendait des kilotonnes par semaine, c'était effrayant, quoi. Donc, des problématiques comme ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le truc aussi, moi, qui me foutait complètement les boules, c'était les mecs qui venaient acheter des plugs pour leurs copines. Parce qu'elles voulaient pas se faire enculer, mais eux, ils avaient vraiment envie. Donc ils venaient acheter le plug avec le petit diamant. Et puis après, je sais pas comment ça se passait à la maison, tu vois, mais...
Et dans voilà. Ce genre de contexte, t'avais envie de leur faire un mini-cours d'éducation
En fait, j'essaie d'identifier un peu la problématique. Je me demande si... je demande, mais pourquoi votre copine, elle est pas là? Peut-être que ce serait quelque chose qu'il faudrait que vous choisissiez à deux, puisque c'est elle qui va le porter, visiblement. Donc il y avait ça. Donc les mecs, ils étaient un peu genre... je sais pas, enfin voilà. Et sinon, quand ils étaient tous les deux... Parce que ça arrivait aussi qu'ils soient à deux pour faire l'achat. Et donc la question qui était toujours quand c'était des... Enfin, la question de base, c'était genre, c'est pour qui? C'est pour vous? Et donc les mecs, à chaque fois, ils disaient genre, non, mais t'es malade. Quoi, c'est pour moi? Je disais, pourquoi pas, hein? Puis quand ils étaient un peu rentre-dedans, je leur sortais un gode ceinture, histoire de les calmer un peu. Mais ça, c'était obligatoire, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, les mecs qui sont... C'est cette injonction à la sodomie aussi, quoi. Si tu pratiques pas la sodomie, t'as rien compris à la vie, quoi.
Alors que la zone anale de l'homme est un...
Est une grosse source de plaisir, évidemment, quoi.
Et une source de plaisir, mais une forteresse... c'est un grand tabou, alors qu'il y a l'obsession... Enfin oui, en fait, il y a une double obsession. L'obsession peut-être des hommes de sodomiser une femme et inversement de ne pas être sodomisé. Enfin, je veux dire, dans les représentations.
Ouais, exactement.
D'accord. Et du coup, il t'arrivait de dire peut-être que madame ne veut pas, ou peut-être comment vous en discutez entre vous. Donc tu faisais vraiment un côté psychologie.
Complètement, ouais. Ça arrivait très souvent, ouais. Mais du coup, ouais, ça, c'est vrai que chez les hétérobasiques, là, comme on les appelait, c'était vraiment le truc récurrent, quoi.
Et est-ce que tu as des souvenirs de gens qui sont venus te remercier de conseils que tu leur aurais donnés ou de petits jouets avec lesquels ils auraient pu découvrir des choses?
Ouais, j'avais plusieurs clients qui revenaient. Il y a une des premières personnes qui m'a marquée, c'était une dame qui devait avoir, la mi-cinquantaine. Et en fait, c'était une vieille fille. Et en fait, elle est rentrée dans le magasin. Et donc, je vais la voir. Elle était hyper fermée. Je vais la voir en lui disant « Est-ce que je peux vous renseigner, madame? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire. » Et tout de suite, elle me dit « Non, mais c'est bon, moi, c'est... Enfin, je suis pas là pour ce que vous croyez. » Enfin, elle était, tu sais, hyper fermée, quoi. Et puis finalement, je vais la revoir à plusieurs reprises. Je la débride un peu en lui faisant des blagues, en lui mettant un petit coup de lubrifiant sucré sur la main ou un bouquin entre les mains. Enfin, voilà. Et elle finit par me raconter son histoire en me disant, voilà, si je suis ici, c'est parce que c'est mon médecin qui me l'a conseillé. En fait, j'ai des très, très gros problèmes dans tout le bas du dos et le bas du ventre. Je suis complètement bloquée, congestionnée. Et donc là, ils veulent m'opérer pour ça, mais je risque de perdre la mobilité, quoi, ma mobilité. Et son médecin lui avait conseillé, en fait, ils avaient parlé de sexualité aussi, puis elle lui avait dit que, en fait, c'était une vieille fille, quoi. Elle avait peut-être eu une relation sexuelle traumatisante jeune, et elle avait pas d'enfant, elle avait pas de bisexuelle, elle avait pas de partenaire. Et du coup, je lui dis, du coup, vous êtes là pour peut-être explorer ça, enfin, est-ce que je peux vous conseiller sur quelque chose, etc. Donc finalement, on avait eu une première discussion qui avait duré une heure, elle était repartie, elle était revenue la semaine d'après, et elle avait fini par acheter un toy. Un petit vibro externe et interne, donc une branche, mais qu'on pouvait utiliser en externe ou en interne. Et puis, je ne l'ai pas revue pendant 2-3 mois. Et elle est revenue au bout de 2-3 mois, mais genre avec la banane comme ça, en me disant merci, merci, merci. Elle m'avait laissé son numéro et tout. Enfin, et du coup, bah, il n'était plus question qu'on l'opère. En fait, le fait qu'elle ait des orgasmes, ça l'avait débloqué complètement le bas du corps, en fait. C'est comme si elle avait des nerfs bloqués un peu partout, quoi.
Ça avait tout débloqué.
Ça avait tout débloqué, en fait. Bah ouais, c'est à force que ça se...
C'est incroyable.
Ouais, donc du coup, ça c'est une expérience marquante avec une cliente.